Lettre 160, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Je vous écris de la chambre de votre malheureuse amie, dont l'état est à peu près toujours le même. Il doit y avoir cet après-midi une consultation de 4 médecins. Malheureusement, c'est comme vous le savez, plus souvent une preuve de danger qu'un moyen de secours. Il paraît cependant que la tête est un peu revenue la nuit dernière. La femme de chambre m'a informé ce matin qu'environ vers minuit, sa maîtresse l'a fait appeler, qu'elle a voulu être seule avec elle et qu'elle lui a dicté une assez longue lettre. Julie a ajouté que tandis qu'elle était occupée à en faire l'enveloppe, Madame de Tourvel avait repris le transport, en sorte que cette fille n'a pas su à qui il fallait mettre l'adresse. Je me suis étonnée d'abord que la lettre elle-même n'ait pas suffi pour le lui apprendre. Mais sur ce qu'elle m'a répondu, qu'elle craignait de se tromper, et que cependant sa maîtresse lui avait bien recommandé de la faire partir sur le champ, j'ai pris sur moi d'ouvrir le paquet. J'ai trouvé l'écrit que je vous envoie, qui en effet ne s'adresse à personne, pour s'adresser à trop de monde. Je croirais cependant que c'est à Monsieur de Valmont que notre malheureuse amie a voulu écrire d'abord, mais qu'elle a cédé sans s'en apercevoir au désordre de ses idées. Quoi qu'il en soit, j'ai jugé que cette lettre ne devait être rendue à personne. Je vous l'envoie, parce que vous y verrez mieux que je ne pourrais vous le dire, quelles sont les pensées qui occupent la tête de notre malade. Tant qu'elle restera aussi vivement affectée, je n'aurai guère d'espérance. Le corps se rétablit difficilement quand l'esprit est si peu tranquille. Adieu, ma digne et chère amie. Je vous félicite d'être éloignée du triste spectacle que j'ai continuellement sous les yeux. Paris, ce 6 décembre 1700. Lettre 161. La présidente de Tourvel a dictée par elle et écrite par sa femme de chambre. Être cruel et malfaisant, ne te lasseras-tu point de me persécuter? Ne te suffit-il pas de m'avoir tourmenté, dégradé, avili? Veux-tu me ravir jusqu'à la paix du tombeau? Quoi? Dans ce séjour de ténèbres où l'ignominie m'a forcé de m'ensevelir, les peines sont-elles sans relâche? L'espérance est-elle méconnue? Je n'implore point une grâce que je ne mérite point. Pour souffrir sans me plaindre, il me suffira que mes souffrances n'excèdent pas mes forces. Mais ne rends pas mes tourments insupportables. En me laissant mes douleurs, ôte-moi le cruel souvenir des biens que j'ai perdus. Quand tu me les as ravis, n'en retrace plus à mes yeux la désolante image. J'étais innocente et tranquille. C'est pour t'avoir vu que j'ai perdu le repos. C'est en t'écoutant que je suis devenue criminelle. Auteur de mes fautes, quel droit as-tu de les punir? Où sont les amis qui me chérissaient? Où sont-ils? Mon infortune les épouvante. Aucun n'ose m'approcher. Je suis opprimée, ils me laissent sans secours. Je meurs, et personne ne pleure sur moi. Toute consolation m'est refusée. La pitié s'arrête sur les bords de l'abîme où le criminel se plonge. Les remords le déchirent, et ses cris ne sont pas entendus. Et toi que j'ai outragé, toi dont l'estime ajoute à mon supplice, toi qui seul enfin aurais le droit de te venger, que fais-tu loin de moi? Viens punir une femme infidèle, que je souffre enfin des tourments mérités. Déjà je me serais soumise à ta vengeance, mais le courage m'a manqué pour t'apprendre ta honte. Ce n'était point dissimulation, c'était respect. Que cette lettre au moins t'apprenne mon repentir. Le ciel a pris ta cause. Il te venge d'une injure que tu as ignorée. C'est lui qui a lié ma langue et retenu mes paroles. Il a craint que tu ne remisses une faute qu'il voulait punir. Il m'a soustraite à ton indulgence qui aurait blessé sa justice. Impitoyable dans sa vengeance, il m'a livrée à celui-là même qui m'a perdue. C'est à la fois pour lui et par lui que je souffre. Je veux le fuir en vain, il me suit, il est là, il m'obsède sans cesse. Mais qu'il est différent de lui-même. Ses yeux n'expriment plus que la haine et le mépris. Sa bouche ne profère que l'insulte et le reproche. Ses bras ne m'entourent que pour me déchirer. Qui me sauvera de sa barbare fureur? Mais quoi? C'est lui. Je ne me trompe pas, c'est lui que je revois. Ô mon aimable ami, reçois-moi dans tes bras, cache-moi dans ton sein. Oui, c'est toi, c'est bien toi. Quelle illusion funeste m'avait fait te méconnaître. Combien j'ai souffert dans ton absence. Nous ne nous séparons plus, nous ne nous séparons jamais. Laisse-moi respirer. Sens mon cœur comme il palpite. Ah, ce n'est plus de crainte, c'est la douce émotion de l'amour. Pourquoi te refuser à mes tendres caresses? Tourne vers moi tes doux regards. Quels sont ces liens que tu cherches à rompre? Pourquoi prépares-tu cet appareil de mort? Qui peut altérer ainsi tes traits? Que fais-tu? Laisse-moi! Je frémis, Dieu, c'est ce monstre encore! Mes amis, ne m'abandonnez pas. Vous qui m'invitiez à le fuir, aidez-moi à le combattre. Et vous qui, plus indulgente, me promettiez de diminuer mes peines, venez donc auprès de moi. Où êtes-vous toutes deux? S'il ne m'est plus permis de vous revoir, répondez au moins à cette lettre, que je sache que vous m'aimez encore. Laisse-moi donc, cruelle, quelle nouvelle fureur t'anime? Crains-tu qu'un sentiment doux ne pénètre jusqu'à mon âme? Tu redoubles mes tourments, tu me forces de te haïr. Ah, que la haine est douloureuse, comme elle corrode le cœur qui la distille. Pourquoi me persécutez-vous? Que pouvez-vous encore avoir à me dire? Ne m'avez-vous pas mise dans l'impossibilité de vous écouter comme de vous répondre? N'attendez plus rien de moi. Adieu, monsieur. Paris, ce 5 décembre 1700. Lettre 162, le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Je suis instruit, monsieur, de vos procédés envers moi. Je sais aussi que, non content de m'avoir indignement joué, vous ne craignez pas de vous en vanter, de vous en applaudir. J'ai vu la preuve de votre trahison écrite de votre main. J'avoue que mon cœur en a été navré, et que j'ai ressenti quelque honte d'avoir autant aidé moi-même à l'odieux abus que vous avez fait de mon aveugle confiance. Pourtant, je ne vous envie pas ce honteux avantage. Je suis seulement curieux de savoir si vous les conserverez tous également sur moi. J'en serai instruit si, comme je l'espère, vous voulez bien vous trouver demain, entre 8 et 9 heures du matin, à la porte du bois de Vincennes, village de Saint-Mandé. J'aurai soin d'y faire trouver tout ce qui sera nécessaire pour les éclaircissements qui me restent à prendre avec vous. Le chevalier Danceny, Paris, ce 6 décembre 1700, au soir. Lettre 163, Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde. Madame, c'est avec bien du regret que je remplis le triste devoir de vous annoncer une nouvelle qui va vous causer un si cruel chagrin. Permettez-moi de vous inviter d'abord à cette pieuse résignation que chacun a si souvent admirée en vous et qui peut seule nous faire supporter les maux dont est semée notre misérable vie. Monsieur votre neveu, mon Dieu, faut-il que j'afflige tant une si respectable dame? Monsieur votre neveu a eu le malheur de succomber dans un combat singulier qu'il a eu ce matin avec monsieur le chevalier Danceny. J'ignore entièrement le sujet de la querelle, mais il paraît, par le billet que j'ai trouvé encore dans la poche de monsieur le vicomte et que j'ai l'honneur de vous envoyer, il paraît, dis-je, qu'il n'était pas l'agresseur. Et il faut que ce soit lui que le ciel ait permis qui succombât. J'étais chez monsieur le vicomte à l'attendre, à l'heure même où on l'a ramené à l'hôtel. Figurez-vous mon effroi en voyant monsieur votre neveu porté par 2 de ses agents et tout baigné dans son sang. Il avait 2 coups d'épée dans le corps et il était déjà bien faible. Monsieur Danceny était aussi là et même il pleurait. Ah, sans doute, il doit pleurer, mais il est bien temps de répandre des larmes quand on a causé un malheur irréparable. Pour moi, je ne me possédais pas. Et malgré le peu que je suis, je ne lui en disais pas moins ma façon de penser. Mais c'est là que monsieur le vicomte s'est montré véritablement grand. Il m'a ordonné de me taire, et celui-là même qui était son meurtrier, il lui a pris la main, l'a appelé son ami, l'a embrassé devant nous tous et nous a dit « Je vous ordonne d'avoir pour monsieur tous les égards qu'on doit à un brave et galant homme. » Il lui a de plus fait remettre devant moi des papiers fort volumineux, que je ne connais pas, mais auquel je sais bien qu'il attachait beaucoup d'importance. Ensuite, il a voulu qu'on les laissât seuls ensemble pendant un moment. Cependant, j'avais envoyé chercher tout de suite tous les secours, tant spirituels que temporels. Mais hélas, le mal était sans remède. Moins d'une demi-heure après, monsieur le vicomte était sans connaissance. Il n'a pu recevoir que l'extrême onction, et la cérémonie était à peine achevée qu'il a rendu son dernier soupir. Bon Dieu, quand j'ai reçu dans mes bras à sa naissance ce précieux appui d'une maison si illustre, Aurais-je pu prévoir que ce serait dans mes bras qu'il expirerait et que j'aurais à pleurer sa mort? Une mort si précoce et si malheureuse. Mes larmes coulent malgré moi. Je vous demande pardon, madame, d'oser ainsi mêler mes douleurs aux vôtres. Mais dans tous les états, on a un cœur et de la sensibilité. Et je serais bien ingrat si je ne pleurais pas toute ma vie un Seigneur qui avait tant de bonté pour moi, qui m'honorait de tant de confiance. Demain, après l'enlèvement du corps, je ferai mettre les scellés partout, et vous pouvez vous en reposer entièrement sur mes soins. Vous n'ignorez pas, madame, que ce malheureux événement finit la substitution et rend vos dispositions entièrement libres. Si je puis vous être de quelque utilité, je vous prie de vouloir bien me faire passer vos ordres. Je mettrai tout mon zèle à les exécuter ponctuellement. Je suis avec le plus profond respect, madame, votre très humble, etc. Bertrand. Paris, ce 7 décembre 1700. Lettre 164, Madame de Rosemonde à Monsieur Bertrand. Je reçois votre lettre à l'instant même, mon cher Bertrand, et j'apprends par elle l'affreux événement dont mon neveu a été la malheureuse victime. Oui, sans doute, j'aurai des ordres à vous donner, et ce n'est que pour eux que je peux m'occuper d'autre chose que de ma mortelle affliction. Le billet de Monsieur Danceny que vous m'avez envoyé est une preuve bien convaincante que c'est lui qui a provoqué le duel, et mon intention est que vous en rendiez plainte sur le champ et en mon nom. En pardonnant à son ennemi, à son meurtrier, mon neveu a pu satisfaire à sa générosité naturelle. Mais moi, je dois venger à la fois sa mort, l'humanité et la religion. On ne saurait trop exciter la sévérité des lois contre ce reste de barbarie qui infecte encore nos mœurs. Et je ne crois pas que ce puisse être dans ce cas que le pardon des injures nous soit prescrit. J'attends donc que vous suiviez cette affaire avec tout le zèle et toute l'activité dont je vous connais capable, et que vous devez à la mémoire de mon neveu. Vous aurez soin, avant tout, de voir Monsieur le Président de ma part, et d'en conférer avec lui. Je ne lui écris pas, pressé que je suis de me livrer tout entière à ma douleur. Vous lui ferez mes excuses et lui communiquerez cette lettre. Adieu, mon cher Bertrand. Je vous loue et vous remercie de vos bons sentiments. Et suis pour la vie tout à vous. Du château de ce 8 décembre 1700. Lettre 165, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Je vous ai déjà instruite, ma chère et digne amie, de la perte que vous venez de faire. Je connaissais votre tendresse pour Monsieur de Valmont, et je partage bien sincèrement l'affliction que vous devez ressentir. Je suis vraiment peinée d'avoir à ajouter de nouveaux regrets à ceux que vous éprouvez déjà. Mais hélas, il ne vous reste non plus que des larmes à donner à notre malheureuse amie. Nous l'avons perdue hier à 11 heures du soir. Par une fatalité attachée à son sort et qui semblait se jouer de toute prudence humaine, ce court intervalle qu'elle a survécu à Monsieur de Valmont lui a suffi pour en apprendre la mort. Et comme elle a dit elle-même, pour n'avoir pu succomber sous le poids de ses malheurs qu'après que la mesure en a été comblée. En effet, vous avez su que depuis plus de 2 jours, elle était absolument sans connaissance. Et encore hier matin, quand son médecin arriva et que nous nous approchâmes de son lit, elle ne nous reconnut ni l'un ni l'autre, et nous ne pûmes en obtenir ni une parole ni le moindre signe. Eh bien, à peine étions-nous revenus à la cheminée, et pendant que le médecin m'apprenait le triste événement de la mort de Monsieur de Valmont, cette femme infortunée a retrouvé toute sa tête. Soit que la nature seule ait produit cette révolution, soit qu'elle ait été causée par ces mots répétés de Monsieur de Valmont et de mort, qui ont pu rappeler à la malade les seules idées dont elle s'occupait depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, elle ouvrit précipitamment les rideaux de son lit en s'écriant « Quoi ? Que dites-vous ? Monsieur de Valmont est mort !» J'espérais lui faire croire qu'elle s'était trompée, et je l'assurais d'abord qu'elle avait mal entendu. Mais loin de se laisser persuader ainsi, elle exigea du médecin qu'il recommençât ce cruel récit. Et sur ce que je voulus essayer encore de la dissuader, elle m'appela et me dit à voix basse « Pourquoi vouloir me tromper ? N'était-il pas déjà mort pour moi ?» Il a donc fallu céder. Notre malheureuse amie a écouté d'abord d'un air assez tranquille. Mais bientôt après, elle a interrompu le récit en disant « Assez, j'en sais assez !» Elle a demandé sur le champ qu'on fermât ses rideaux. Et lorsque le médecin a voulu s'occuper ensuite des soins de son état, elle n'a jamais voulu souffrir qu'il approchât d'elle. Dès qu'il a été sorti, elle a pareillement renvoyé sa garde et sa femme de chambre. Et quand nous avons été seuls, elle m'a prié de l'aider à se mettre à genoux sur son lit et de l'y soutenir. Là, elle est restée quelque temps en silence et sans autre expression que celle de ses larmes qui coulaient abondamment. Enfin, joignant ses mains et les élevant vers le ciel, « Dieu Tout-Puissant », a-t-elle dit d'une voix faible mais fervente, « Je me soumets à ta justice, mais pardonne à Valmont. Que mes malheurs, que je reconnais avoir mérités, ne lui soient pas un sujet de reproche, et je bénirai ta miséricorde. » Je me suis permis, ma chère et digne amie, d'entrer dans ces détails sur un sujet que je sens bien devoir renouveler et aggraver vos douleurs, parce que je ne doute pas que cette prière de Madame de Tourvel ne porte cependant une grande consolation dans votre âme. Après que notre amie eut proféré ce peu de mots, elle se laissa retomber dans mes bras, et elle était à peine replacée dans son lit, qui lui prit une faiblesse qui fut longue, mais qui céda pourtant aux secours ordinaires. Aussitôt qu'elle eut repris connaissance, elle me demanda d'envoyer chercher le père Anselme, et elle ajouta « C'est à présent le seul médecin dont j'ai besoin. » Je sens que mes maux vont bientôt finir. » Elle se plaignait beaucoup d'oppression et elle parlait difficilement. Peu de temps après, elle me fit remettre par sa femme de chambre une cassette que je vous envoie, qu'elle me dit contenir des papiers à elle et qu'elle me chargea de vous faire passer aussitôt après sa mort. Ensuite, elle me parla de vous et de votre amitié pour elle, autant que sa situation le lui permettait et avec beaucoup d'attendrissement. Le père Anselme arriva vers les 4 heures et resta près d'une heure seul avec elle. Quand nous rentrâmes, la figure de la malade était calme et sereine, mais il était facile de voir que le père Anselme avait beaucoup pleuré. Il resta pour assister aux dernières cérémonies de l'église. Ce spectacle, toujours si imposant et si douloureux, le devenait encore plus par le contraste que formait la tranquille résignation de la malade avec la douleur profonde de son vénérable confesseur, qui fondait en larmes à côté d'elle. L'attendrissement devint général, et celle que tout le monde pleurait fut la seule qui ne se pleura point. Le reste de la journée se passa dans les prières usitées, qui ne furent interrompues que par les fréquentes faiblesses de la malade. Enfin, vers les 11 heures du soir, elle me parut plus oppressée et plus souffrante. J'avançai ma main pour chercher son bras. Elle eut encore la force de la prendre et la posa sur son cœur. Je n'en sentis plus le battement. Et en effet, notre malheureuse amie expira dans le moment même. Vous rappelez-vous, ma chère amie, qu'à votre dernier voyage ici, il y a moins d'un an, causant ensemble de quelques personnes dont le bonheur nous paraissait plus ou moins assuré, nous nous arrêtâmes avec complaisance sur le sort de cette même femme, dont aujourd'hui nous pleurons à la fois les malheurs et la mort. Tant de vertus, des qualités louables et d'agrément, d'un caractère si doux et si facile, un mari qu'elle aimait et dont elle était adorée, une société où elle se plaisait et dont elle faisait les délices, de la figure, de la jeunesse, de la fortune. Tant d'avantages réunis ont donc été perdus par une seule imprudence. Ô Providence, sans doute il faut adorer tes décrets, mais combien ils sont incompréhensibles. Je m'arrête. Je crains d'augmenter votre tristesse en me livrant à la mienne. Je vous quitte et vais passer chez ma fille qui est un peu indisposée. En apprenant de moi ce matin cette mort si prompte de 2 personnes de sa connaissance, elle s'est trouvée mal et je l'ai fait mettre au lit. J'espère cependant que cette légère incommodité n'aura pas de suite. À cet âge-là, on n'a pas encore l'habitude des chagrins et leur impression en devient plus vive et plus forte. Cette sensibilité si active est sans doute une qualité louable. Mais combien tout ce qu'on voit chaque jour nous apprend à la craindre. Adieu, ma chère et digne amie. Paris, ce 9 décembre 1700. Lettre 166, Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde. Madame, en conséquence des ordres que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, j'ai eu celui de voir Monsieur le Président de... et je lui ai communiqué votre lettre en le prévenant que, suivant vos désirs, je ne ferai rien que par ses conseils. Ce respectable magistrat m'a chargé de vous observer que la plainte que vous êtes dans l'intention de rendre contre monsieur le chevalier Danceny compromettrait également la mémoire de monsieur votre neveu, et que son honneur se trouverait nécessairement entaché par l'arrêt de la cour, ce qui serait sans doute un grand malheur. Son avis est donc qu'il faut bien se garder de faire aucune démarche, et que s'il y en avait à faire, ce serait au contraire pour tâcher de prévenir que le ministère public ne prit connaissance de cette malheureuse aventure qui n'a déjà que trop éclaté. Ces observations m'ont paru pleines de sagesse, et je prends le parti d'attendre de nouveaux ordres de votre part. Permettez-moi de vous prier, madame, de vouloir bien, en me les faisant passer, y joindre un mot sur l'état de votre santé, pour laquelle je redoute extrêmement le triste effet de tant de chagrin. J'espère que vous pardonnerez cette liberté à mon attachement et à mon zèle. Je suis avec respect, madame, votre, etc. Paris, ce 10 décembre 1700. Lettre 167, anonyme à monsieur le chevalier Danceny. Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que ce matin, au parquet de la cour, il a été question parmi messieurs les gens du roi de l'affaire que vous avez eue ces jours derniers avec monsieur le vicomte de Valmont, et qu'il est à craindre que le ministère public n'en rende plainte. J'ai cru que cet avertissement pourrait vous être utile, soit pour que vous fassiez agir vos protections pour arrêter ces suites fâcheuses, soit, au cas que vous n'y puissiez parvenir, pour vous mettre dans le cas de prendre vos sûretés personnelles. Si même vous me permettez un conseil, je crois que vous ferez bien, pendant quelque temps, de vous montrer moins que vous ne l'avez fait depuis quelques jours. Quoique ordinairement on ait de l'indulgence pour ces sortes d'affaires, on doit néanmoins toujours ce respect à la loi. Cette précaution devient d'autant plus nécessaire qu'il m'est revenu qu'une madame de Rosemonde, qu'on m'a dit tante de monsieur de Valmont, voulait rendre plainte contre vous, et qu'alors la partie publique ne pourrait pas se refuser à sa réquisition. Il serait peut-être à propos que vous puissiez faire parler à cette dame. Des raisons particulières m'empêchent de signer cette lettre, mais je compte que pour ne pas savoir de qui elle vous vient, vous n'en rendrez pas moins justice au sentiment qu'il a dicté. J'ai l'honneur d'être, etc. Paris, ce 10 décembre 1700. Lettre 168, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Il se répand ici, ma chère et digne amie, sur le compte de Madame de Merteuil, des bruits bien étonnants et bien fâcheux. Assurément, je suis loin d'y croire, et je parierais bien que ce n'est qu'une affreuse calomnie. Mais je sais trop combien les méchancetés, même les moins vraisemblables, prennent aisément consistance, et combien l'impression qu'elles laissent s'efface difficilement, pour ne pas être très alarmée de celle-ci, toute facile que je les croise à détruire. Je désirerais surtout qu'elles puissent être arrêtées de bonne heure et avant d'être plus répandues. Mais je n'ai su qu'hier, fort tard, ces horreurs qu'on commence seulement à débiter. Et quand j'ai envoyé ce matin chez madame de Merteuil, elle venait de partir pour la campagne où elle doit passer 2 jours. On n'a pas pu me dire chez qui elle était allée. Sa seconde femme, que j'ai fait venir me parler, m'a dit que sa maîtresse lui avait seulement donné ordre de l'attendre jeudi prochain, et aucun des gens qu'elle a laissés ici n'en sait davantage. Moi-même, je ne présume pas où elle peut être. Je ne me rappelle personne de sa connaissance qui reste aussi tard à la campagne. Quoi qu'il en soit, vous pourrez, à ce que j'espère, me procurer d'ici à son retour des éclaircissements qui peuvent lui être utiles. Car on fonde ces odieuses histoires sur des circonstances de la mort de monsieur de Valmont, dont apparemment vous aurez été instruite, si elles sont vraies, ou dont au moins il vous sera facile de vous faire informer, ce que je vous demande en grâce. Voici ce qu'on publie, ou pour mieux dire, ce qu'on murmure encore, mais qui ne tardera sûrement pas à éclater davantage. On dit donc que la querelle survenue entre monsieur de Valmont et le chevalier Danceny est l'ouvrage de madame de Merteuil, qui les trompait également tous deux. Que comme il arrive presque toujours, les deux rivaux ont commencé par se battre et ne sont venus qu'après aux éclaircissements. Que ceux-ci ont produit une réconciliation sincère et que pour achever de faire connaître madame de Merteuil au chevalier Danceny et aussi pour se justifier entièrement, monsieur de Valmont a joint à ses discours une foule de lettres, formant une correspondance régulière qu'il entretenait avec elle et où celle-ci raconte sur elle-même et dans le style le plus libre les anecdotes les plus scandaleuses. On ajoute que Danceny, dans sa première indignation, a livré ses lettres à qui a voulu les voir, et qu'à présent elle court Paris. On en cite particulièrement deux. L'une où elle fait l'histoire entière de sa vie et de ses principes, et qu'on dit le comble de l'horreur. L'autre qui justifie entièrement M. de Prévan, dont vous vous rappelez l'histoire, par la preuve qui s'y trouve qu'il n'a fait au contraire que céder aux avances les plus marquées de Mme de Merteuil, et que le rendez-vous était convenu avec elle. J'ai heureusement les plus fortes raisons de croire que ces imputations sont aussi fausses qu'odieuses. D'abord, nous savons toutes deux que M. de Valmont n'était sûrement pas occupé de Mme de Merteuil, et j'ai tout lieu de croire que Danceny ne s'en occupait pas davantage. Ainsi, il me paraît démontré qu'elle n'a pu être ni le sujet ni l'auteur de la querelle. Je ne comprends pas non plus quel intérêt aurait eu Mme de Merteuil, que l'on suppose d'accord avec M. de Prévan, à faire une scène qui ne pouvait jamais être que désagréable par son éclat et qui pouvait devenir très dangereuse pour elle, puisqu'elle se faisait par là un ennemi irréconciliable d'un homme qui se trouve maître d'une partie de son secret et qui avait alors beaucoup de partisans. Cependant, il est à remarquer que depuis cette aventure, il ne s'est pas élevé une seule voix en faveur de Prévan, et que même de sa part, il n'y a eu aucune réclamation. Ces réflexions me porteraient à le soupçonner, l'auteur des bruits qui courent aujourd'hui, et à regarder ses noirceurs comme l'ouvrage de la haine et de la vengeance d'un homme qui, se voyant perdu, espère par ce moyen répandre au moins des doutes et causer peut-être une diversion utile. Mais de quelque part que viennent ces méchancetés, le plus pressé est de les détruire. Elle tomberait d'elle-même s'il se trouvait, comme il est vraisemblable, que messieurs de Valmont et Danceny ne se fussent point parlé depuis leur malheureuse affaire et qu'il n'y eût pas eu de papier remis. Dans mon impatience de vérifier ces faits, j'ai envoyé ce matin chez monsieur Danceny. Il n'est pas non plus à Paris. Ses gens ont dit à mon valet de chambre qu'il était parti cette nuit sur un avis qu'il avait reçu hier et que le lieu de son séjour était un secret. Apparemment, il craint les suites de son affaire. Ce n'est donc que par vous, ma chère et digne amie, que je puis avoir les détails qui m'intéressent et qui peuvent devenir si nécessaires à Madame de Merteuil. Je vous renouvelle ma prière de me les faire parvenir le plus tôt possible. Postscriptum, l'indisposition de ma fille n'a eu aucune suite, elle vous présente son respect. Paris, ce 11 décembre 1700. Lettre 169, le chevalier Danceny à Madame de Rosemonde. Madame, peut-être trouverez-vous la démarche que je fais aujourd'hui bien étrange, mais je vous en supplie, écoutez-moi avant de me juger, et ne voyez ni audace ni témérité où il n'y a que respect et confiance. Je ne me dissimule pas les torts que j'ai vis-à-vis de vous, et je ne me les pardonnerais de ma vie si je pouvais penser un moment qu'il m'eût été possible d'éviter de les avoir. Soyez même bien persuadée, madame, que pour me trouver exempt de reproches, je ne le suis pas de regrets. Et je peux ajouter encore avec sincérité que ce que je vous cause entre pour beaucoup dans ce que je ressens. Pour croire à ces sentiments dont j'ose vous assurer, il doit vous suffire de vous rendre justice et de savoir que sans avoir l'honneur d'être connu de vous, j'ai pourtant celui de vous connaître. Cependant, quand je gémis de la fatalité qui a causé à la fois vos chagrins et mes malheurs, on veut me faire craindre que tout entière à votre vengeance, vous ne cherchiez les moyens de la satisfaire jusque dans la sévérité des lois. Permettez-moi d'abord de vous observer à ce sujet qu'ici votre douleur vous abuse, puisque mon intérêt est sur ce point essentiellement lié à celui de M. de Valmont, et qu'il se trouverait enveloppé lui-même dans la condamnation que vous auriez provoquée contre moi. Je croirais donc, madame, pouvoir au contraire compter plutôt de votre part sur des secours que sur des obstacles, dans les soins que je pourrais être obligée de prendre pour que ce malheureux événement restât enseveli dans le silence. Mais cette ressource de complicité, qui convient également au coupable et à l'innocent, ne peut suffire à ma délicatesse. En désirant de vous écarter comme partie, je vous réclame comme mon juge. L'estime des personnes qu'on respecte est trop précieuse pour que je me laisse ravir la vôtre sans la défendre, et je crois en avoir les moyens. En effet, si vous convenez que la vengeance est permise, disons mieux qu'on se la doit, quand on a été trahi dans son amour, dans son amitié et surtout dans sa confiance. Si vous en convenez, mes torts vont disparaître à vos yeux. N'en croyez pas mes discours, mais lisez, si vous en avez le courage, la correspondance que je dépose entre vos mains. La quantité de lettres qui s'y trouvent en original par y rendre authentiques celles dont il n'existe que des copies. Au reste, j'ai reçu ces papiers, tels que j'ai l'honneur de vous les adresser, de Monsieur de Valmont lui-même. Je n'y ai rien ajouté, et je n'en ai distrait que deux lettres que je me suis permis de publier. L'une était nécessaire à la vengeance commune de Monsieur de Valmont et de moi, à laquelle nous avions droit tous deux, et dont il m'avait expressément chargé. J'ai cru de plus que c'était rendre service à la société que de démasquer une femme aussi réellement dangereuse que les Madame de Merteuil, et qui, comme vous pouvez le voir, est la seule, la véritable cause de tout ce qui s'est passé entre Monsieur de Valmont et moi. Un sentiment de justice m'a porté aussi à publier la seconde pour la justification de Monsieur de Prévan, que je connais à peine, mais qui n'avait aucunement mérité le traitement rigoureux qu'il vient d'éprouver, ni la sévérité des jugements du public, plus redoutable encore, et sous laquelle il gémit depuis ce temps sans avoir rien pour s'en défendre. Vous ne trouverez donc que la copie de ces deux lettres, dont je me dois de garder les originaux. Pour tout le reste, je ne crois pas pouvoir remettre de plus sur main un dépôt qu'il m'importe peut-être qu'il ne soit pas détruit, mais dont je rougirai d'abuser. Je crois, madame, en vous confiant ces papiers, servir aussi bien les personnes qu'ils intéressent qu'en les remettant à elles-mêmes. Et je leur sauve l'embarras de les recevoir de moi et de me savoir instruit d'aventures que, sans doute, elles désirent que tout le monde ignore. Je crois devoir vous prévenir à ce sujet que cette correspondance si jointe n'est qu'une partie d'une collection bien plus volumineuse dont Monsieur de Valmont l'a tirée en ma présence et que vous devez retrouver à la levée des scellés sous le titre que j'ai vu de compte ouvert entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Vous prendrez sur cet objet le parti que vous suggérera votre prudence. Je suis avec respect, madame, etc. Postscriptum. Quelques avis que j'ai reçus et les conseils de mes amis m'ont décidé à m'absenter de Paris pour quelque temps. Mais le lieu de ma retraite, tenu secret pour tout le monde, ne le sera pas pour vous. Si vous m'honorez d'une réponse, je vous prie de l'adresser à la commanderie de « Par paix » et sous le couvert de « Monsieur le commandeur de « C'est de chez lui que j'ai l'honneur de vous écrire. » Paris, ce 12 décembre 1700. Lettre 170, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Je marche, ma chère amie, de surprise en surprise, de chagrin en chagrin. Il faut être mère pour avoir l'idée de ce que j'ai souffert hier toute la matinée. Et si mes plus cruelles inquiétudes ont été calmées depuis, il me reste encore une vive affliction et dont je ne prévois pas la fin. Hier, vers 10 heures du matin, étonnée de ne pas avoir encore vu ma fille, j'envoyai ma femme de chambre pour savoir ce qui pouvait occasionner ce retard. Elle revint le moment d'après fort effrayée et m'effraya bien davantage en m'annonçant que ma fille n'était pas dans son appartement et que depuis le matin, sa femme de chambre ne l'y avait pas trouvée. Jugez de ma situation. Je fis venir tous mes gens et surtout mon portier. Tous me jurèrent ne rien savoir et ne pouvoir rien m'apprendre sur cet événement. Je passai aussitôt dans la chambre de ma fille. Le désordre qui y régnait m'apprit bien qu'apparemment elle n'était sortie que le matin. Mais je n'y trouvai d'ailleurs aucun éclaircissement. Je visitai ses armoires, son secrétaire. Je trouvai tout à sa place et toutes ses hardes, à la réserve de la robe avec laquelle elle était sortie. Elle avait seulement pris le peu d'argent qu'elle avait chez elle. Comme elle n'avait appris qu'hier tout ce qu'on dit de Madame de Merteuil, qu'elle lui est fort attachée, et au point même qu'elle n'avait fait que pleurer toute la soirée. Comme je me rappelais aussi qu'elle ne savait pas que Madame de Merteuil était à la campagne, ma première idée fut qu'elle avait voulu voir son amie, qu'elle avait fait l'étourderie d'y aller seule. Mais le temps qui s'écoulait sans qu'elle revînt me rendit toutes mes inquiétudes. Chaque moment augmentait ma peine, et tout en brûlant de m'instruire, je n'osais pourtant prendre aucune information dans la crainte de donner de l'éclat à une démarche que peut-être je voudrais après pouvoir cacher à tout le monde. Non, de ma vie je n'ai tant souffert. Enfin, ce ne fut qu'à 2 heures passées que je reçus à la fois une lettre de ma fille et une de la supérieure du couvent de... La lettre de ma fille disait seulement qu'elle avait craint que je ne m'opposasse à la vocation qu'elle avait de se faire religieuse et qu'elle n'avait osé m'en parler. Le reste n'était que des excuses sur ce qu'elle avait pris sans ma permission, ce parti que je ne désapprouverais sûrement pas, ajoutait-elle, si je connaissais ses motifs, que pourtant elle me priait de ne pas lui demander. La supérieure me mandait qu'ayant vu arriver une jeune personne seule, elle avait d'abord refusé de la recevoir. Mais que l'ayant interrogée, et ayant appris qui elle était, elle avait cru me rendre service en commençant par donner asile à ma fille, pour ne pas l'exposer à de nouvelles courses auxquelles elle paraissait déterminée. La supérieure, en m'offrant comme de raison de me remettre ma fille si je la redemandais, m'invite, suivant son état, à ne pas m'opposer à une vocation qu'elle appelle si décidée. Elle me disait encore n'avoir pas pu m'informer plus tôt de cet événement par la peine qu'elle avait eue à me faire écrire par ma fille, dont le projet était que tout le monde ignorât où elle s'était retirée. C'est une cruelle chose que la déraison des enfants. J'ai été sur-le-champ à ce couvent, et après avoir vu la supérieure, je lui ai demandé de voir ma fille. Celle-ci n'est venue qu'avec peine et bien tremblante. Je lui ai parlé devant les religieuses et je lui ai parlé seule. Tout ce que j'ai pu en tirer au milieu de beaucoup de larmes est qu'elle ne pouvait être heureuse qu'au couvent. J'ai pris le parti de lui permettre d'y rester, mais sans être encore au rang des postulantes comme elle le demandait. Je crains que la mort de Madame de Tourvel et celle de Monsieur de Valmont n'aient trop affecté cette jeune tête. Quelque respect que j'ai pour la vocation religieuse, je ne verrai pas sans peine et même sans crainte ma fille embrasser cet état. Il me semble que nous avons déjà assez de devoirs à remplir sans nous en créer de nouveaux. Et encore, ce n'est guère à cet âge que nous savons ce qui nous convient. Ce qui redouble mon embarras, c'est le retour très prochain de Monsieur de Gercourt. Faudra-t-il rompre ce mariage si avantageux? Comment donc faire le bonheur de ses enfants s'il ne suffit pas d'en avoir le désir et d'y donner tous ses soins? Vous m'obligerez beaucoup de me dire ce que vous feriez à ma place. Je ne peux m'arrêter à aucun parti. Je ne trouve rien de si effrayant que d'avoir à décider du sort des autres. Et je crains également de mettre dans cette occasion-ci la sévérité d'un juge ou la faiblesse d'une mère. Je me reproche sans cesse d'augmenter vos chagrins en vous parlant des miens. Mais je connais votre cœur. La consolation que vous pourriez donner aux autres deviendrait pour vous la plus grande que vous puissiez recevoir. Adieu, ma chère et digne amie. J'attends vos deux réponses avec bien de l'impatience. Paris, ce 13 décembre 1700. Lettre 171, Madame de Rosemonde au chevalier Danceny. Après ce que vous m'avez fait connaître, monsieur, il ne reste qu'à pleurer et qu'à se taire. On regrette de vivre encore quand on apprend de pareilles horreurs. On rougit d'être femme quand on en voit une capable de semblables excès. Je me prêterai volontiers, monsieur, pour ce qui me concerne, à laisser dans le silence et l'oubli tout ce qui pourrait avoir trait et donner suite à ces tristes événements. Je souhaite même qu'il ne vous cause jamais d'autres chagrins que ceux inséparables du malheureux avantage que vous avez remporté sur mon neveu. Malgré ses torts que je suis forcée de reconnaître, je sens que je ne me consolerai jamais de sa perte. Mais mon éternelle affliction sera la seule vengeance que je me permettrai de tirer de vous. C'est à votre cœur à en apprécier l'étendue. Si vous permettez à mon âge une réflexion qu'on ne fait guère au vôtre, c'est que si on était éclairé sur son véritable bonheur, on ne le chercherait jamais hors des bornes prescrites par les lois et la religion. Vous pouvez être sûr que je garderai fidèlement et volontiers le dépôt que vous m'avez confié. Mais je vous demande de m'autoriser à ne le remettre à personne, pas même à vous, monsieur, à moins qu'il ne devienne nécessaire à votre justification. J'ose croire que vous ne vous refuserez pas à cette prière et que vous n'êtes plus à sentir qu'on frémit souvent de s'être livré même à la plus juste vengeance. Je ne m'arrête pas dans mes demandes, persuadé que je suis de votre générosité et de votre délicatesse. Il serait bien digne de toutes deux de remettre aussi entre mes mains les lettres de Mademoiselle de Volanges, qu'apparemment vous avez conservées et qui sans doute ne vous intéresse plus. Je sais que cette jeune personne a de grands torts envers vous, mais je ne pense pas que vous songiez à l'en punir, et ne fût-ce que par respect pour vous-même, vous n'avilirez pas l'objet que vous avez tant aimé. Je n'ai donc pas besoin d'ajouter que les égards que la fille ne mérite pas sont au moins bien dus à la mère, à cette femme respectable, vis-à-vis de qui vous n'êtes pas sans avoir beaucoup à réparer. Car enfin, quelque illusion qu'on cherche à se faire par une prétendue délicatesse des sentiments, celui qui le premier tente de séduire un cœur encore honnête et simple, se rend par là même le premier fauteur de sa corruption, et doit être à jamais comptable des excès et des égarements qui la suivent. Ne vous étonnez pas, monsieur, de tant de sévérité de ma part. Elle est la plus grande preuve que je puisse vous donner de ma parfaite estime. Vous y acquérez de nouveaux droits encore, en vous prêtant, comme je le désire, à la sûreté d'un secret, dont la publicité vous ferait tort à vous-même et porterait la mort dans un cœur maternel que déjà vous avez blessé. Enfin, monsieur, je désire de rendre ce service à mon ami. Et si je pouvais craindre que vous ne me refusassiez cette consolation, je vous demanderais de songer auparavant que c'est la seule que vous m'ayez laissée. J'ai l'honneur d'être, etc. Du château de ce 15 décembre 1700. Lettre 172, Madame de Rosemonde à Madame de Volanges. Si j'avais été obligée, ma chère amie, de faire venir et d'attendre de Paris les éclaircissements que vous me demandez concernant Madame de Merteuil, il ne me serait pas possible de vous les donner encore, et sans doute je n'en aurais reçu que de vagues et d'incertains. Mais il m'en est venu que je n'attendais pas, que je n'avais pas lieu d'attendre, et ceux-là n'ont que trop de certitude. Oh, mon ami, combien cette femme vous a trompé! Je répugne à entrer dans aucun détail sur cet amas d'horreur, mais quelque chose qu'on en débite, assurez-vous qu'on est encore au-dessous de la vérité. J'espère, ma chère amie, que vous me connaissez assez pour me croire sur ma parole et que vous n'exigerez de moi aucune preuve. Qu'il vous suffise de savoir qu'il en existe une foule que j'ai dans ce moment même entre les mains. Ce n'est pas sans une peine extrême que je vous fais la même prière de ne pas m'obliger à motiver le conseil que vous me demandez relativement à Mademoiselle de Volanges. Je vous invite à ne pas vous opposer à la vocation qu'elle montre. Sûrement nulle raison ne peut autoriser à forcer de prendre cet état quand le sujet n'y est pas appelé. Mais quelquefois, c'est un grand bonheur qu'il le soit. Et vous voyez que votre fille elle-même vous dit que vous ne la désapprouveriez pas si vous connaissiez ses motifs. Celui qui nous inspire nos sentiments, c'est mieux que notre vaine sagesse ce qui convient à chacun. Et souvent, ce qui paraît un acte de sa sévérité en est au contraire un de sa clémence. Enfin, mon avis que je sens bien qui vous affligera, et que par là même vous devez croire que je ne vous donne pas sans y avoir beaucoup réfléchi, et que vous laissiez Mademoiselle de Volanges au couvent, puisque ce parti est de son choix, que vous encouragiez plutôt que de contrarier le projet qu'elle paraît avoir formé, et que dans l'attente de son exécution, vous n'hésitiez pas à rompre le mariage que vous aviez arrêté. Après avoir rempli ces pénibles devoirs de l'amitié, et dans l'impuissance que je suis d'y joindre aucune consolation, la grâce qui me reste à vous demander, ma chère amie, est de ne plus m'interroger sur rien qui ait rapport à ces tristes événements. Laissons-les dans l'oubli qui leur convient. Et sans chercher d'inutiles et d'affligeantes lumières, soumettons-nous au décret de la Providence et croyons à la sagesse de ses vues, lors même qu'elle ne nous permet pas de les comprendre. Adieu, ma chère amie. Du château de ce 15 décembre 1700. Lettre 173, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Oh mon ami, de quel voile effrayant vous enveloppez le sort de ma fille! Et vous paraissez craindre que je ne tente de le soulever? Que me cache-t-il donc, qui puisse affliger davantage le cœur d'une mère que les affreux soupçons auxquels vous me livrez? Plus je connais votre amitié, votre indulgence, et plus mes tourments redoublent. 20 fois depuis hier, j'ai voulu sortir de ces cruelles incertitudes et vous demander de m'instruire sans ménagement et sans détour. Et chaque fois j'ai frémi de crainte, en songeant à la prière que vous me faites de ne pas vous interroger. Enfin, je m'arrête à un parti qui me laisse encore quelque espoir, et j'attends de votre amitié que vous ne vous refuserez pas à ce que je désire. C'est de me répondre si j'ai à peu près compris ce que vous pouviez avoir à me dire, de ne pas craindre de m'apprendre tout ce que l'indulgence maternelle peut couvrir et qui n'est pas impossible à réparer. Si mes malheurs excèdent cette mesure, alors je consens à vous laisser en effet ne vous expliquer que par votre silence. Voici donc ce que j'ai su déjà et jusqu'où mes craintes peuvent s'étendre. Ma fille a montré avoir quelque goût pour le chevalier Danceny et j'ai été informée qu'elle a été jusqu'à recevoir des lettres de lui et même jusqu'à lui répondre. Mais je croyais être parvenue à empêcher que cette erreur d'un enfant n'eût aucune suite dangereuse. Aujourd'hui que je crains tout, je conçois qu'il serait possible que ma fille, séduite, n'ait mis le comble à ses égarements. Je me rappelle encore plusieurs circonstances qui peuvent fortifier cette crainte. Je vous ai mandé que ma fille s'était trouvée mal à la nouvelle du malheur arrivé à Monsieur de Valmont. Peut-être cette sensibilité avait-elle seulement pour objet l'idée des risques que Monsieur Danceny avait courus dans ce combat. Quand depuis elle a tant pleuré en apprenant tout ce qu'on disait de Madame de Merteuil, peut-être ce que j'ai cru la douleur de l'amitié n'était que l'effet de la jalousie ou du regret de trouver son amant infidèle. Sa dernière démarche peut encore, ce me semble, s'expliquer par le même motif. Souvent on se croit appelé à Dieu, et par cela seul qu'on se sent révolté contre les hommes. Enfin, en supposant que ces faits soient vrais et que vous en soyez instruite, vous aurez pu sans doute les trouver suffisants pour autoriser le conseil rigoureux que vous me donnez. Cependant, s'il était ainsi, en blâmant ma fille, je croirais pourtant lui devoir encore de tenter tous les moyens de lui sauver les tourments et les dangers d'une vocation illusoire et passagère. Si M. Danceny n'a pas perdu tout sentiment d'honnêteté, il ne se refusera pas à réparer un tort dont lui seul est l'auteur. Et je peux croire enfin que le mariage de ma fille est assez avantageux pour qu'il puisse en être flatté, ainsi que sa famille. Voilà, ma chère et digne amie, le seul espoir qui me reste. Hâtez-vous de le confirmer si cela vous est possible. Vous jugez combien je désire que vous me répondiez et quel coup affreux me porterait votre silence. J'allais fermer ma lettre quand un homme de ma connaissance est venu me voir et m'a raconté la cruelle scène que Madame de Merteuil a essuyée avant-hier. Comme je n'ai vu personne tous ces derniers jours, je n'avais rien su de cette aventure. En voilà le récit, tel que je le tiens d'un témoin oculaire. Madame de Merteuil, en arrivant de la campagne, avant-hier jeudi, s'est fait descendre à la Comédie italienne où elle avait sa loge. Elle y était seule, et, ce qui dut lui paraître extraordinaire, aucun homme ne s'y présenta pendant tout le spectacle. À la sortie, elle entra, suivant son usage, au petit salon qui était déjà rempli de monde. Sur le champ, il s'éleva une rumeur, mais dont apparemment elle ne se crut pas l'objet. Elle aperçut une place vide sur l'une des banquettes et elle alla s'y asseoir. Mais aussitôt, toutes les femmes qui y étaient déjà se levèrent comme de concert et l'y laissèrent absolument seule. Ce mouvement marqué d'indignation générale fut applaudi de tous les hommes et fit redoubler les murmures qui, dit-on, allèrent jusqu'aux huées. Pour que rien ne manquât à son humiliation, son malheur voulut que M. de Prévan, qui se n'était montré nulle part depuis son aventure, entra dans le même moment dans le petit salon. Dès qu'on l'aperçut, tout le monde, hommes et femmes, l'entoura et l'applaudit. Et il se trouva, pour ainsi dire, porté devant Madame de Merteuil par le public qui faisait cercle autour d'eux. On assure que celle-ci a conservé l'air de ne rien voir et de ne rien entendre, et qu'elle n'a pas changé de figure. Mais je crois ce fait exagéré. Quoi qu'il en soit, cette situation, vraiment ignominieuse pour elle, a duré jusqu'au moment où on a annoncé sa voiture. Et à son départ, les huées scandaleuses ont encore redoublé. Il est affreux de se trouver parente de cette femme. Monsieur de Prévan a été, le même soir, fort accueilli de tous des officiers de son corps qui se trouvaient là. Et on ne doute pas qu'on ne lui rende bientôt son emploi et son rang. La même personne qui m'a fait ce détail m'a dit que Madame de Merteuil avait pris la nuit suivante une très forte fièvre, qu'on avait cru d'abord être l'effet de la situation violente où elle s'était trouvée. Mais qu'on sait, depuis hier au soir, que la petite vérole s'est déclarée confluente et d'un très mauvais caractère. En vérité, ce serait, je crois, un bonheur pour elle d'en mourir. On dit encore que toute cette aventure lui fera peut-être beaucoup de tort pour son procès, qui est près d'être jugé, et dans lequel on prétend qu'elle avait besoin de beaucoup de faveurs. Adieu, ma digne et chère amie. Je vois bien dans tout cela les méchants punis, mais je n'y trouve nulle consolation pour leur malheureuse victime. Paris, ce 18 décembre 1700. Lettre 174, le chevalier Danceny à Madame de Rosemonde. Vous avez raison, madame, et sûrement je ne vous refuserai rien de ce qui dépendra de moi, et à quoi vous paraîtrez attacher quelque prix. Le paquet que j'ai l'honneur de vous adresser contient toutes les lettres de Mademoiselle de Volanges. Si vous les lisez, vous ne verrez peut-être pas sans étonnement qu'on puisse réunir tant d'ingénuité et tant de perfidie. C'est au moins ce qui m'a frappé le plus dans la dernière lecture que je viens d'en faire. Mais surtout, peut-on se défendre de la plus vive indignation contre Madame de Merteuil, quand on se rappelle avec quel affreux plaisir elle a mis tous ses soins à abuser de tant d'innocence et de candeur. Non, je n'ai plus d'amour. Je ne conserve rien d'un sentiment si indignement trahi. Et ce n'est pas lui qui me fait chercher à justifier Mademoiselle de Volanges. Mais cependant, ce cœur si simple, ce caractère si doux et si facile, ne se serait-il pas porté au bien plus aisément encore qu'ils ne se sont laissés entraîner vers le mal? Quelle jeune personne, sortant de même du couvent, sans expérience et presque sans idée, et ne portant dans le monde, comme il arrive presque toujours alors, qu'une égale ignorance du bien et du mal? Quelle jeune personne, dis-je, aurait pu résister davantage à de si coupables artifices? Ah, pour être indulgent, il suffit de réfléchir à combien de circonstances indépendantes de nous tient l'alternative effrayante de la délicatesse ou de la dépravation de nos sentiments. Vous me rendiez donc justice, madame, en pensant que les torts de Mademoiselle de Volanges, que j'ai sentis bien vivement, ne m'inspirent pourtant aucune idée de vengeance. C'est bien assez d'être obligé de renoncer à l'aimer. Il m'en coûterait trop de la haïr. Je n'ai eu besoin d'aucune réflexion pour désirer que tout ce qui la concerne et qui pourrait lui nuire restât à jamais ignoré de tout le monde. Si j'ai paru différer quelque temps de remplir vos désirs à cet égard, je crois pouvoir ne pas vous en cacher le motif. J'ai voulu auparavant être sûre que je ne serais point inquiétée sur les suites de ma malheureuse affaire. Dans un temps où je demandais votre indulgence, où j'osais même croire y avoir quelque droit, j'aurais craint d'avoir l'air de l'acheter en quelque sorte par cette condescendance de ma part. Et sûre de la pureté de mes motifs, j'ai eu, je l'avoue, l'orgueil de vouloir que vous pardonnerez cette délicatesse, peut-être trop susceptible, à la vénération que vous m'inspirez, au cas que je fais de votre estime. Le même sentiment me fait vous demander, pour dernière grâce, de vouloir bien me faire savoir si vous jugez que j'ai rempli tous les devoirs qu'ont pu m'imposer les malheureuses circonstances dans lesquelles je me suis trouvée. Une fois tranquille sur ce point, mon parti est pris. Je pars pour Malte. J'irai y faire avec plaisir et y garder religieusement des vœux qui me sépareront d'un monde dont, si jeune encore, j'ai déjà eu tant à me plaindre. J'irai enfin chercher à perdre, sous un ciel étranger, l'idée de tant d'horreurs accumulées et dont le souvenir ne pourrait qu'attrister et flétrir mon âme. Je suis avec respect, madame, votre humble, etc. Paris, ce 26 décembre 1700. Lettre 175, Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Le sort de Madame de Merteuil paraît enfin rempli, ma chère et digne amie, et il est tel que ses plus grands ennemis sont partagés entre l'indignation qu'elle mérite et la pitié qu'elle inspire. J'avais bien raison de dire que ce serait peut-être un bonheur pour elle de mourir de sa petite vérole. Elle en est revenue, il est vrai, mais affreusement défigurée, et elle y a particulièrement perdu un œil. Vous jugez bien que je ne l'ai pas revue, mais on m'a dit qu'elle était vraiment hideuse. Le marquis de, qui ne perd pas l'occasion de dire une méchanceté, disait hier, en parlant d'elle, que la maladie l'avait retournée, et qu'à présent son âme était sur sa figure. Malheureusement, tout le monde trouva que l'expression était juste. Un autre événement vient d'ajouter encore à ses disgrâces et à ses torts. Son procès a été jugé avant-hier et elle a perdu tout d'une voix. Dépens, dommages et intérêts, restitution des fruits, tout a été adjugé aux mineurs. En sorte que le peu de sa fortune qui n'était pas compromis dans ce procès est absorbé et au-delà par les frais. Aussitôt qu'elle a appris cette nouvelle, quoique malade encore, elle a fait ses arrangements et est partie seule dans la nuit et en poste. Ses gens disent aujourd'hui qu'aucun d'eux n'a voulu la suivre. On croit qu'elle a pris la route de la Hollande. Ce départ fait plus crier encore que tout le reste, en ce qu'elle a emporté ses diamants, objet très considérable et qui devait rentrer dans la succession de son mari, son argenterie, ses bijoux, enfin tout ce qu'elle a pu, et qu'elle laisse après elle pour près de 50 000 livres de dettes. C'est une véritable banqueroute. La famille doit s'assembler demain pour voir à prendre des arrangements avec les créanciers. Quoique parente bien éloignée, j'ai offert d'y concourir. Mais je ne me trouverai pas à cette assemblée, devant assister à une cérémonie plus triste encore. Ma fille prend demain l'habit de postulante. J'espère que vous n'oubliez pas, ma chère amie, que dans ce grand sacrifice que je fais, je n'ai d'autre motif pour m'y croire obligée que le silence que vous avez gardé vis-à-vis de moi. Monsieur Danceny a quitté Paris il y a près de 15 jours. On dit qu'il va passer à Malte et qu'il a le projet de s'y fixer. Il serait peut-être temps encore de le retenir. Mon ami, ma fille est donc coupable. Vous pardonnerez sans doute à une mère de ne céder que difficilement à cette affreuse incertitude. Quelle fatalité s'est donc répandue autour de moi depuis quelque temps et m'a frappée dans les objets les plus chers, ma fille et mon amie. Qui pourrait ne pas frémir en songeant au malheur que peut causer une seule liaison dangereuse? Et quelle peine ne s'éviterait-on point en y réfléchissant davantage? Quelle femme ne fuirait pas au premier propos d'un séducteur? Quelle mère pourrait, sans trembler, voir une autre personne qu'elle parler à sa fille? Mais ces réflexions tardives n'arrivent jamais qu'après l'événement. Et l'une des plus importantes vérités, comme aussi peut-être des plus généralement reconnues, reste étouffée et sans usage dans le tourbillon de nos mœurs inconséquentes. Adieu, ma chère et digne amie. J'éprouve en ce moment que notre raison, déjà si insuffisante pour prévenir nos malheurs, l'est encore davantage pour nous en consoler. Paris, ce 14 janvier 1700.